Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est contre-histoire. Pour une fois, je serai brève, étant obligée de lâcher l'antenne dans quelques minutes. Tellement je n'imaginais pas être en direct aujourd'hui. Mais trop c'est trop, comme le disait ce monsieur, rencontré à l'arrêt du bus Place Bouyère ce jeudi, avec qui j'ai partagé les documents de Mediapart et que je salue. J'en profite pour envoyer aussi un bonjour amical et reconnaissant à Catherine. Disons Catherine Labo pour laboratoire, Catherine qui s'occupe si bien de moi depuis si longtemps et qui menace de devenir une auditrice régulière de Canal Sud. Merci à vous et à lundi. Je rappelle que vous pouvez tous retrouver Contre-histoire sur www.canalsud.net, rubrique chroniqueur ou contre-histoire, c'est la même vu qu'on a l'habitude de tout mélanger. Comme je ne fais que passer aujourd'hui, ce que je n'arriverai pas à vous lire, vous le retrouverez sur le podcast où je vous referai une lecture intégrale des listes des signataires de l'appel que je vous propose. Mais aujourd'hui, on chroniquera pas du tout. L'heure est trop grave. Malgré les promesses ou les multiples condamnations internationales, par la Cour européenne des droits de l'homme en particulier, la France continue, et avec de plus en plus de zèle, d'insolence, d'énergie, de sadisme, d'enthousiasme, à cogner, à blesser, à violer, à tuer. Et c'est ce pays-là qui aurait inventé les droits de l'homme ? France esclavagiste, France colonialiste, France exploiteuse, France voleuse de richesses, diamants, or, uranium, coltan, titane. Et j'en passe, mais surtout, France voleuse de vie et de jeunesse, qu'elle frappe à tour de bras, à tour de matraque, à coups de flashball, à coups de balles réelles aussi, de grenades, de clés dans le dos, malade de son histoire qu'elle refuse de regarder en face. La France fabrique tous les jours une histoire de France pour les enfants, ceux qui resteront demain, et qui sera encore pire que son histoire de ce jour. L'histoire d'une mère qui tue ses enfants qu'elle a abandonnés, quasiment enfermés dans les ghettos, des enfants auxquels elle refuse les soins, l'éducation, le logement décent et le travail. Des enfants qu'elle élimine petit à petit, au rythme moyen de un par mois depuis des décennies. Un mort par mois depuis plus de 50 ans. 600, 700 morts, davantage encore, sans doute, car on ne sait pas tout. Et puis il y a des jours, comme un certain 17 octobre 1961, où comme ça, on fait des provisions. 300 morts d'un coup, en 48 heures, que la Seine a charrié jusqu'à Rouen. Et cette mère indigne ne tue pas seulement des enfants, elle s'attaque aux femmes, et bien sûr, d'abord aux Noirs, et aux vieillards aussi. Ce 4 février 2017, ce vieux pasteur de 83 ans, tabassé à Quimper, où il osait protester contre le crime de la police. Sans doute, la belle justice de ce pays diagnostiquera-t-elle la légitime défense pour les policiers sadiques et fous qui l'ont agressé. Sans doute, ce faible tribun mettait-il en danger, de ses mains nues, ses hommes armés jusqu'aux dents. En danger de mort, sans doute. Ou pire, en danger de réflexion, de question, d'analyse peut-être. Et je me demande, comment font ces hommes, et parfois ces femmes, qui ne sont pas toujours en reste, comment font-ils pour arriver à des actes pareils ? Quel entraînement psychologique ont-ils suivi ? À quoi peut ressembler le cerveau d'un flic criminel ? Et les cours donnés dans les écoles de police ? On sait que dans les guerres, les plus dangereux combattants sont très souvent drogués à l'alcool ou autres substances. On sait que chez les croisés, des guerres du roi très Saint-Louis et autres farceurs du même acabit, chez les djihadistes d'aujourd'hui, des messages litanies et axiomes enveloppés d'oripeaux religieux dynamisent les agresseurs et surtout les privent de toute possibilité de réflexion, désinhibant les timorés qui hésiteraient quelque peu, le doigt sur la gâchette. On le sait, c'est ainsi qu'on met au point des machines à tuer. C'est connu. Mais pas en France, pas chez nous. Impossible, ma chère. Ah, vraiment. Alors, si la police française n'est pas dressée à tuer par un Maurice Papon ou un Charles Pasqua, comment expliquer cette caractéristique très spéciale, sinon spécifique, de cette corporation. Marianne, ma vieille, l'Europe entière, que dis-je l'Europe, le monde entier, te montre du doigt. Et tu n'as pas honte ? Les pouvoirs publics actuels et ceux de demain, les candidats à la présidentielle et aux législatives doivent comprendre, et vite, qu'il y a un avant-viol de Théo et un après-viol de Théo. Cette fois-ci, la coupe est pleine. Le 19 mars, Marianne doit renaître dans la justice, dans l'unité, la tolérance et la solidarité. Renaître ou disparaître, déshonorée, souillée, du sang si pur, des enfants qu'elle a laissés assassiner par ses valets caractériels, sadiques et psychopathes, qui lui font honte aux yeux du monde entier. Mais attention, ne pas confondre ce 19 mars avec un certain 11 janvier et sa congrégation insolite de citoyens soudés dans le chagrin et la fraternité, avec l'indécente parade des représentants de démocratures variées, venus se refaire sur nos boulevards une virginité de remplacement. Il paraît d'ailleurs que les partis et les syndicats ne se bousculent pas pour ouvrir la marche. Eh bien, comme ça, ça sera clair. Vox Populi, Vox Dei. Exclusivement. Voix des jeunes, des vieux, des familles, de tous ces enfants à élever et à protéger contre la police et tous les pouvoirs. Voix de toutes les mères à qui le mot « viol » arrache un cri d'horreur. Au pouvoir qui agonise et au suivant qui ne dit mot, nous demandons le démantèlement de l'IGPN, cette inspection générale de la police nationale, dite aussi « bœuf-carotte ». Cœur véritable du problème, puisque ces décisions innocentent les policiers criminels et donc légitiment d'avance leurs crimes et violences. Nous demandons l'application du droit constitutionnel qu'ont les citoyens de contrôler leurs institutions. Nous ne demandons que la justice et l'égalité de tous les citoyens devant cette justice. Nous demandons notre dû, rien de plus. La res publica, la chose publique. Le gouvernement de la nation nous appartient. Zied et Bouna, bien sûr, inoubliable. Et aussi Aliziri, Argenteuil 2009. Mustapha Ziani, Marseille, 12 décembre 2010. Timothée Lake, Toulouse, 17 octobre 2014. Rémi Fraisse, bien sûr, à Sivens, le 25 octobre 2014. Bertranzo Abonayo a joué les tours le 20 décembre 2014, le 19 juillet 2016, Adama Traoré, le 2 février 2017, viol de Théo, le 4 février 2017, tabassage de Gilbert Nicolas, 83 ans, à Quimper. Et je vais vous lire là quelques extraits des blogs des lecteurs de Mediapart. Alors, violence de l'ordre, 8 février 2017, blog Mediapart de Mathéo. Solidarité envers le pasteur Gilbert Nicolas, militant pacifiste de 83 ans, sauvagement tabassé par les CRS à Quimper, samedi soir 4 février 2017. Cette agressivité des forces de l'ordre telle qu'elle s'exprime, avec la mort de Rémi Fraisse, celle d'Adama Traoré et l'agression du jeune Théo. Brutalité à répétition et délibérée envers des manifestations pacifiques. Cette violence ne correspond certes pas à l'idée d'une police de contact avec les populations qui prévaut dans une démocratie, dans ce pays qui se targue d'être celui des droits de l'homme. Messieurs Hollande, Valls, Cazeneuve ont eu tout loisir de donner mission au préfet de gérer avec raison ces situations. Ils ne l'ont pas fait et portent la responsabilité de cette tension. Aujourd'hui, exprimer calmement en France ses idées pour un monde plus social, plus solidaire, c'est le combat que Gilbert Nicolas et sa femme mènent depuis des années. Ce combat est devenu dangereux. C'est à coups de matraque et grenades offensives que les courageux pacifistes sont désignés comme dangereux activistes et violentés. De quelle démocratie cet État se réclame-t-il donc ? et blog d'Yvan Nagiel, 8 février 2017, sur la manif. Manif hier au métro Ménilmontant. Depuis au moins 3 ans, le pouvoir hollando-valsiste, issu du Parti socialiste, intimide les manifestants et manifestantes et s'enfonce dans un grave déni démocratique parallèle à l'explosion des crimes policiers racistes qu'il ne condamne pas, ou si peu. Manif hier contre les violences et les crimes policiers au métro Ménilmontant. Comme pour celle de la gare du Nord cet été pour Adama Traoré, les CRS ont déboulé en force pour nasser la manif, faire peur et faire hésiter les gens à manifester les prochaines fois, allant jusqu'à bloquer les issues vers les quais du métro. Moment flippant. On sent qu'on est à la merci de grenades et ou de coups de matraque. Tout ça se déroule sous le pouvoir du PS. Le parti de gauche avait des délégués, mais on n'a pas entendu les frondeurs du PS. Si Hollande est allé rendre visite à Théo sur son lit d'hôpital, voilà 3 ans depuis les manifs palestines de 2014. Voilà 3 ans que le président supervise avec bienveillance la lepénisation de l'État, dont la police dite républicaine, vermoulue des convictions criminelles racistes et le bras armé. Et voici l'article du blog qui s'intitule « Marche du 19 mars ». Marchons le 19 mars pour résister aux violences policières. Depuis de longues années, les actes et discours racistes se banalisent et structurent de plus en plus le discours dominant en France. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser le viol en réunion par 4 policiers sur Théo, un jeune homme de 22 ans, de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Même si, une fois de plus, les faits ont été requalifiés et qu'un seul des policiers est poursuivi pour viol, la violence physique et psychologique n'en reste pas moins du domaine de la barbarie. Plusieurs familles ayant perdu un membre suite à des violences policières ont lancé un appel pour une marche pour la justice et la dignité. Cet appel des premiers concernés par le caractère brutal du racisme organisé, le plus brutal qui soit, a été co-signé par d'autres familles victimes de violences policières, de nombreuses organisations et des personnalités. Pour nous rassembler vite et plus nombreux, un texte de soutien en 4 points résume cet appel. Nous appelons à manifester le 19 mars pour la justice et la dignité parce que la revendication légitime de vérité et de justice portée par les familles victimes de violences policières doit être soutenue. La banalisation des discours, des actes racistes et leur caractère structurel sont inacceptables. Les droits démocratiques doivent être défendus face à l'état d'urgence et aux mesures liberticides qui touchent particulièrement celles et ceux qui subissent le racisme. L'accueil des migrants et migrantes dans des conditions dignes et la régularisation de tous les sans-papiers doivent être opposés à l'Europe forteresse. Ces 4 points et l'appel à manifester constituent la base du collectif 19 mars. L'ensemble des organisations, collectifs et personnalités appelant à cette marche pour la justice et la dignité, particulièrement significatif, ne cesse de se développer. De nombreuses initiatives sont prévues ou en voie de constitution dans les régions. Et déjà, on note la présence de délégations étrangères, ce qui est très significatif. Donald Trump enflamme les États-Unis par ses mesures discriminatoires. Partout en Europe, au prétexte du choc des civilisations, on exacerbe les peurs et on légitime la stigmatisation et la répression contre une partie de la population parce que noire, arabe, rome ou musulmane. Ce même système est utilisé pour perpétuer des situations de guerre dans lesquelles les grandes puissances portent une lourde responsabilité à l'origine d'une grande partie de ces migrations. En France, du fait de l'agenda politique, la démagogie raciste prend une résonance toute particulière et nous convoque du même coup, nous qui voulons entrer en résistance. Il est temps de constituer un mouvement large, unitaire, antiraciste et solidaire, qui fasse le lien avec les autres résistances sociales en œuvre. Un mouvement qui s'inscrive dans cette période électorale et au-delà. Soyons nombreux à marcher dans les rues de Paris et des autres villes le 19 mars pour la justice et la dignité. Et l'heure tourne, et je ne sais pas ce que je vais arriver à vous dire encore. Je commence par la lecture des noms des familles signataires, quelques signatures individuelles, et je vais vous citer aussi quelques personnalités que vous reconnaîtrez certainement. Et puis, je vous donne rendez-vous sur www.canalsud.net sur le podcast que je mettrai en ligne, j'espère, ce soir. Organismes collectifs et personnalités inscrits dans la démarche du 19 mars à ce jour. Première famille signataire, famille de Lahoussine Aït Oghmar, d'Amin Bentounsi, de Hossine Bourras, d'Abdoulaye Camara, de Lamine Dieng, de Wissam El Ayamni, d'Amadou Koumé, de Mourad Touat, d'Ali Ziri, de Jean-Pierre Ferrara, de Rémi Fraisse et de Babacar Gueye. Avec le soutien des comités et vérités des comités Vérité et Justice pour Lamine Dieng, pour Mamadou Marega, pour Abou Bakari Tandia, pour Babacar Gueye. Les signatures individuelles des artistes et célébrités. Amé du groupe La Rumeur, Kerry James, Youssoufa, Opel Tometi, cofondatrice de Black Lives Matter et Executive Director of Black Alliance for Just Immigration. Elie Domota, du LKP, Association antillaise contre l'exploitation. Medine, l'artiste, et l'écrivain Boubacar Boris Diop. Et par ordre alphabétique, d'autres personnalités. Samia Mara, l'humoriste, Siam Asbag, militante antiraciste, Jamel Atala, marcheur du 83, Ludivine Bantigny, historienne, Elsa Bardot, maire adjointe de Villeneuve-Saint-Georges, Benaïli Mounia, conseillère municipale, parti de gauche de Juvisy-sur-Orge, Ben Amar Youssef, adjoint au maire d'Allonne du 72, Mohamed Bekelouf, maire adjoint à Aubervilliers, Mohamed Ben Yaklef, Insaf Cheban, Omar Cherigen, conseiller municipal de Villeneuve-Saint-Georges, Judith Bernard, metteur en scène. Olivier Besancenot, bien sûr, Jamel Blanchard, coprésident de Passons-nous, Félix Boggio Evangépé de la revue Période, Ahmed Boubaker, sociologue, Rachid Bouchareb, réalisateur bien connu, Alima Boumediene Thierry, avocate, Ouria Boutelja, Pierre Coursaliès, sociologue, professeur émérite à Paris 8, membre de Ensemble. Gertie Dambury, écrivaine, Christiane Delphi, écrivaine et féministe, Rokaya Diallo, auteure et réalisatrice, Eva Doumbia, artiste. Mireille Fanon Mendès France, le plus joli nom possible, de la Fondation Frantz Fanon et experte à l'ONU. Patrick Farbiaz, de Sortir du colonialisme, François Gèze, éditeur, Alain Grèche, journaliste, Nassira Guenif Souelimas, sociologue, Hadj Chik Aouria, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Olivier Lecourt-Grandmaison, universitaire dont contre-histoire pille régulièrement les travaux, Franco Lolia, Frédéric Lordon, Stella Magliani Belkacem, des éditions La Fabrique, Philippe Marlière, universitaire, Majin Messaouden, élu du 93 à Saint-Denis, René Monza, militant antiraciste, Océane Rosemary, dont je vous ai lu récemment les vœux de bonne année, et Philippe Poutou, porte-parole du NP.
Saadan Sadghi, cofondateur des Jeunes Arabes de Lyon et banlieue, et du mouvement des immigrés des banlieues. Catherine Samary, militante altermondialiste. Maximilien Sanchez, conseiller municipal délégué à la jeunesse de Gentilly. Anzouman Sissoko, porte-parole de la coordination internationale des sans-papiers émigrants. Omar Slaouti, membre du collectif Aliziri. Odile Tobner, auteur du « Racisme français ». Enzo Traverso, universitaire, Françoise Vergès, politologue, Marie-Christine Vergiat, députée européenne, Front de gauche, Michael Vamen, CGT Goodyear Amiens, Catherine Vitol de Vinden, universitaire, et Youkov, l'artiste.
Etc., etc. Il y en a encore beaucoup, c'est ce qui s'appelle « La France en marche ». Et c'est pas tout. Et je voudrais quand même vous lire quelques signatures internationales auxquelles le gouvernement devrait prêter attention. En Grande-Bretagne, la Adam Mooze de Londres, « The Nine Black Students Campaign ». En Inde, Dina Siddiqui, professeure d'anthropologie à l'Université Brak du Bangladesh. Sheba Shashi, artiste New Delhi. Kavita Krishnan, activiste des droits des femmes à Delhi. Aux États-Unis, sur la côte Est pour commencer, à la célèbre université Yale dans le Connecticut, le professeur Inderpal Gruwal. À l'université Rutgers, autre centre prestigieux du New Brunswick, toujours sur la côte Est, Nelson Maldonado Torres, professeur associé d'études latines et caribéennes et de littérature comparée. Jabir Pour, professeur associé des études féministes et de genre. Donna Mersch, professeur associé. À l'université de New York, Liza Duggan, professeure d'analyse sociale et culturelle. Et Ruthie Wilson Gilmore, professeure et directeur de centre culturel. Et à la conquête de l'Ouest, de l'autre côté, à l'université célébrissime de Berkeley, ont signé Paola Bacchetta, professeure, Atem Bazian, directeur du centre de documentation sur l'islamophobie, Minou Molem, professeur du département études féministes et de genre, Carla Trujillo, novelliste, et Ramon Grossfugel, professeur. À l'Université d'État de San Francisco, ont signé Yuma Dar, cofondateur des cultures et identités musulmanes, Malkia Cyril, de Black Lives Matter, Rabab Abdul Hadi, directeur des diasporas et ethnicités arabes et musulmanes. À l'Université de Californie de Santa Barbara, Frances Windenstwine, professeur de sociologie, et Sheila Sandoval, professeur de mexicain et d'études mexicaines, et Pratibha Parmar, cinéaste et professeur associé au Collège des arts de Californie. Au Canada, à la York University de Toronto, Stéphane Kipfer et Greg Albo, professeurs, et Jean Arita Wern, professeur, et Sirma Bilge, professeur associé au département de sociologie de l'Université de Montréal. Et encore, Bruxelles Panthers, candidatura d'Unitat Popular des Països Catalans, New Socialist Project de Toronto, Solidarité Suisse, Ontario Coalition Against Poverty, London Campaign Against Police and State en Grande-Bretagne, Iran en Argentine, Iran International, c'est le réseau juif antisioniste, Islamic Human Rights Commission, Historical Materialism de Toronto, Association contre le racisme, ACOR, Suisse, et les nouveaux cahiers du socialisme de Montréal. Je vous donnerai en podcast le lien pour signer cet appel personnellement. Je vous rappelle donc, rendez-vous sur le site www.canalsud.net. À bientôt, j'espère.